Territoire en projet, ces collectivités qui construisent les lieux de demain. Une émission présentée par Anne-Solange Miss et Laurent Pinon, directeur associé de l'agence Alphaville sur Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Territoria dans notre émission Territoire en projet, animée par Laurent Pinon. Bonjour Laurent.
Bonjour Anne-Solange.
Donc vous êtes architecte urbaniste, spécialisée dans la stratégie territoriale et animée également par moi-même. Et je l'espère que cette émission vous permettra de mieux comprendre les outils de l'aménagement de nos territoires. Aujourd'hui, nous allons vous parler des projets de territoire que vous connaissez peut-être, chers auditeurs, parce que comme professionnel ou comme citoyen, vous avez peut-être un jour été invité par votre commune ou communauté de communes à y participer. Un projet de territoire tel qu'on le connaît d'un point de vue général, c'est une feuille de route, c'est-à-dire la conduite d'un diagnostic, la conduite d'ambition et d'action partagée pour un territoire choisi à une échéance donnée. C'est un document porté par une collectivité territoriale composée de plusieurs élus qui ensemble réfléchissent au devenir à 20 ou 30 ans de leur territoire. D'après le rapport mené par l'Assemblée des communes de France et la Caisse des dépôts en 2014-2015 sur les projets de territoire, la moitié des communautés dispose d'un projet de territoire et un quart prévoit d'en élaborer un prochainement, ce qui n'est pas un chiffre négligeable. Mais Laurent Pinon, je crois savoir que cet outil territorial a évolué et connaît des formes très diverses. Pouvez-vous nous en dire plus ?
En effet, Anne-Solange, aujourd'hui, nous allons explorer trois typologies de projets de territoire, car cette notion de tend à recouvrir une diversité de pratiques, de formes et de contenus. Il n'y a pas de définition juridique précise et le projet de territoire ne constitue pas une obligation légale, à la différence des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, les plans locaux d'urbanisme, PLU, ou bien les programmes locaux de l'habitat, ou encore les plans climat, air, énergie territoriaux, donc les PCAET. La forme la plus classique que vous venez de décrire, le projet de territoire donc au sens politique, eh bien, s'inscrit dans le cadre fixé par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, dite loi Voynet, qui reconnaît la notion de projet d'agglomération. Et à partir de 2021, ces projets de territoire seront accompagnés par les CRTE, donc les contrats de relance et de transition écologique, qui illustrent un nouveau mode de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. Mais au-delà de cette approche strictement politique du projet de territoire, eh bien, d'autres territoires mettent également en place des démarches spécifiques, hors cadre réglementaire, pour faire projet de territoire sur des thématiques ou des lieux particuliers. Et enfin, l'État propose aux acteurs locaux une démarche atelier des territoires pour élaborer collectivement une vision d'avenir et de développement local.
Et alors, qui avez-vous choisi d'inviter aujourd'hui pour en parler avec nous ?
Alors, nous avons le plaisir de recevoir trois invités qui ont mis en place une démarche de projet de territoire, mais dans des formats et des objectifs sensiblement différents. Alors, on a le plaisir d'accueillir Isabelle Diaz en studio, qui est chef du bureau des stratégies territoriales au ministère de la Transition écologique et qui est en charge de la démarche Atelier des territoires, avec près d'une vingtaine de sessions menées depuis 2006 et qui nous en dira plus tout à l'heure. Nous avons également Stéphane Bois, qui est directeur général du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. Ce sont 61 communes, 5 intercommunalités pour 880 000 habitants. Et vous nous parlerez de la démarche Eau et paysage initiée en 2013. Et vous êtes avec nous depuis Nantes. Et enfin, Paul-Émile Lezéan, qui est directeur du pôle aménagement du territoire de la communauté de communes de Puisé-Forterre, 57 communes, 35 000 habitants à l'ouest d'Auxerre, donc en région Bourgogne-Franche-Comté, et qui nous parlera du contexte d'élaboration du projet de territoire en lien avec celle du contrat de relance et de transition écologique, et qui est avec nous depuis Toussy, dans l'Yonne. Bonjour, messieurs, dames.
Merci, Laurent, et bonjour à tous les trois. Un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de ces projets de territoire. On est très content de vous accueillir sur le plateau. Avant de commencer notre première partie d'émission, je vous propose d'écouter cet extrait.
On n'est pas loin donc de la forêt et on bénéficie aussi de la proximité de Fontainebleau. Ce qui manque, je crois, est-ce qu'il faut faire très attention à notre environnement et le préserver.
La première chose qu'il faut vraiment, vraiment développer, c'est le transport.
Ça m'intéresse aussi de voir ce que vous pouvez faire pour dynamiser tous ces petits villages, quoi.
Je vois que la mission est très, très difficile parce que le territoire est très hétéroclite. Je trouvais ça intéressant d'interroger les citoyens.
C'est un contraste assez formidable entre le sud de l'agglomération, enfin de la communauté d'agglomération, et le nord avec Fontainebleau, Avon, Bois-le-Roi.
Donc on vient d'entendre un extrait d'un petit film réalisé autour du projet de territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, hein, qui se trouve au sud de la région parisienne. Un projet qui a été adopté en 2019. Et on a entendu des habitants témoigner de leurs besoins, notamment en transport, de leur souhait aussi de préserver la qualité de vie de leur territoire. Laurent, pourquoi cet extrait ?
Cet extrait témoigne de la concertation et plus largement de la co-construction qui se met en place dans l'élaboration des projets de territoire. On a entendu ici la parole des citoyens, mais les élus, les techniciens sont également associés à ce type de démarche. Et c'est un peu l'état d'esprit qui est retenu aussi donc, par la communauté de communes de Puisé-Forterre. Donc, Paul-Émile Lezéan, vous venez de lancer cette année la démarche conjointe de projet de territoire et de contrat de relance et de transition écologique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux documents, la manière dont finalement vous les avez lancés et le but qui est poursuivi ?
On a souhaité s'engager à la fin de l'année 2020 avec une spécificité, c'est qu'on ne souhaitait pas forcément s'inscrire que dans le cadre réglementaire du contrat de relance et de transition écologique. Et on souhaitait profiter de ce début de mandat pour également se poser la question du devenir de notre territoire, qui est donc un territoire rural avec une densité d'habitants assez faible et donc un grand territoire avec des composantes paysagères très importantes qui structurent l'histoire et aussi le devenir de ce territoire. Et donc, il y avait vraiment un vrai besoin que j'ai ressenti en arrivant. Je suis arrivé assez récemment en poste. Un vrai besoin de donner du sens à l'action locale, de légitimer aussi la place de l'EPCI comme donc la communauté de communes, comme un échelon déterminant dans l'action et dans le développement, et donc de mettre un peu plus de cohérence dans tous les projets d'aménagement qui étaient déjà dans les cartons. Donc ça, c'est vraiment l'objectif porté au travers de ce projet de territoire qui est vraiment spécifique. Qui va être structuré et défini par la Comcom. Et à côté de ça, il y a effectivement la nécessité de, j'ai envie de dire, à une échelle plus recentrée, de mener à bien notre projet de contrat de relance et de transition écologique. Les deux documents étant finalement très, très liés, et j'ai eu coutume de dire que finalement, le CRTE, c'est un petit peu notre contrat local autour de la transition écologique, autour des enjeux environnementaux qui se posent à nous, et qu'on va aussi formater pour qu'il puisse rentrer dans les clous de ce qui nous est demandé au niveau de l'État, puisque ça va être aussi un document important en termes de contrat, puisqu'il a vocation à simplifier les relations contractuelles avec nos partenaires institutionnels. Donc, c'est aussi un bel enjeu que sous-tend ce CRTE.
Merci Paul-Émile. Isabelle Diaz, donc le ministère de la Transition écologique porte depuis 2006 cette démarche d'atelier qui se déclinait auparavant à l'échelle nationale et maintenant à cette échelle locale et qui répond à des problématiques comme le paysage, les territoires économiques, patrimoine. Ils aboutissent à des projets du coup, de territoires locaux, mais selon un processus particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ?
Oui, bien sûr. Donc, vous l'avez dit, c'est un dispositif qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc, je rends hommage au passage à Christina Garcés, architecte urbaniste de l'État, qui a amené en fait cette méthodologie, cette démarche au sein même de l'administration centrale du ministère. Donc, administration générale, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, hein, donc qui porte les grandes politiques à la fois de la transition, du logement et de l'aménagement, du paysage, etc. Donc, effectivement, elle a connu deux moments de transformation, cette démarche. La première, donc, en 2012-2013, avec une décentralisation en fait, du pilotage. Et donc, ça a mis dans la boucle en fait, de la démarche nos collègues des services déconcentrés de l'État. Et puis une déclinaison plus récente en 2019-2020 qui fait qu'on accompagne aujourd'hui les territoires avec cette même méthode, mais dans un dispositif à la carte. donc en parallèle du dispositif que je vais tout de suite vous décrire rapidement. Donc ces deux déclinaisons en fait n'empêchent pas qu'on ait gardé les fondamentaux de la démarche, les objectifs de la démarche et la méthodologie, en fait, qui sont finalement assez simples et partagés, puisque les objectifs, c'est d'accompagner des territoires. Hein. Je le répète quand même, l'État ne fait pas la place des collectivités, hein. Les compétences sont décentralisées, donc on est vraiment dans une posture d'accompagnement. Et donc accompagne des territoires très très diversifiés sur des sujets évidemment qui sont aujourd'hui fondamentaux, hein, de transition écologique et d'aménagement durable et inclusif, et cela dans le même temps, c'est-à-dire c'est ça la complexité, c'est mener de front à la fois les objectifs de préservation des territoires et de développement des territoires. Ça paraît le béaba, mais c'est quand même à la fois des injonctions et des grandes difficultés pour les territoires de progresser avec ces objectifs en fait qu'on doit tous partager. Alors l'idée, c'est de produire en fait ensemble un collectif d'acteurs sur le terrain autour d'une thématique dont on vient de parler, et à partir en fait non pas de recettes toutes faites ou de benchmarking ou de bonnes pratiques que l'on présenterait aux territoires qui s'engagent dans la démarche, mais plutôt dans une approche où l'on part en fait du territoire lui-même, on regarde ce qu'il y a comme atout, quels sont les acteurs, quelles sont les démarches qui existent déjà, quelles sont les volontés de faire. Et tout cela dans un temps donné, hein, puisqu'un atelier des territoires, c'est environ 9 mois. Donc on travaille sur le terrain 9 mois, on part des territoires, de la volonté. Et la particularité de ces ateliers, c'est qu'on met à disposition une équipe projet autonome, c'est-à-dire externe au territoire, qui va être recrutée par un marché public. Et cette équipe pluridisciplinaire, hein, elle est pluridisciplinaire, ça c'est très important, puisqu'on va aborder les sujets de manière extrêmement transversale et pluridisciplinaire. Elle va être à la disposition du territoire, mais dans une posture qui n'est pas que de facilitateur. Et c'est une équipe qui va faire des propositions de stratégie pour aider en fait le collectif d'acteurs à établir une feuille de route, donc établir un projet de territoire, mais vraiment à partir de ce qu'ils souhaitent réellement faire. Donc c'est ce qui est important, c'est que cet atelier des territoires met au cœur des acteurs les élus de plusieurs territoires, et eux vont valider à partir des différentes séquences. On a 3 grandes séquences dans l'atelier, vont valider des pistes d'aménagement, des principes d'aménagement, un récit territorial avec l'ensemble des acteurs, mais ne sont pas là que pour en représentant ou en écoute. Ils sont acteurs, en fait, de cette feuille de route qui n'existe pas a priori. Donc le résultat sera celui que les acteurs auront bien voulu en fait partager ensemble. Alors l'idée, c'est qu'on a toujours des territoires, pour donner un petit peu des typologies, hein, des territoires qui se sentent évidemment soit sous pression très forte démographique, comme les territoires littoraux. On a des territoires qui sont en pleine mutation économique, comme les territoires de montagne, de moyenne montagne, où la neige s'est terminée. Comment fait-on, pour être un peu simpliste? Des territoires qui se sentent servants ou qui ont été pendant une longue histoire de leur territoire servant d'autres territoires. On a puisé leurs ressources. Les personnes qui résident là travaillent ailleurs. Et donc, ces territoires, comment créer un nouveau destin quand on s'est senti pendant des années servant par rapport à d'autres? Donc voilà le type de territoire qui répondent. Et peut-être juste vous dire qu'on vient de lancer il y a quelques jours la nouvelle session d'atelier des territoires, donc 2021-2022, qui s'intitule « Mieux aménager avec des sols vivants », donc sur toutes ces questions du foncier. Et donc, encore une fois, ce défi à relever de continuer à faire vivre les territoires, mais peut-être sans consommer
Les ressources.
Ouais. Merci beaucoup, Isabelle Diaz. Stéphane Bois, dans le pôle métropolitain donc de Nantes-Saint-Nazaire, vous avez organisé en 2013 un appel à concepteurs ou un dialogue compétitif sur 6 EPCI pour répondre à la thématique eau et paysage. Alors, quel était le contexte de cette procédure singulière et comment s'est-elle déroulée?
En fait, cette procédure ou ce projet, je pense qu'on, enfin, l'intitulé de la session est projet territoire. Et là, je pense que c'était un projet, voire des projets pour le territoire. Et c'était ça un peu le contexte de cette procédure singulière. Le pôle métropolitain est réuni sur un espace géographique particulier qui est l'estuaire de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire, des grandes communes, Nantes, Saint-Nazaire, des toutes petites communes le long de l'estuaire, dont certaines aussi sans habitants. Et en fait, il y a un acte fondateur qui a été notre candidature à un appel à projet de l'État en 2008, qui était un appel à projet sur les écocités. Donc des territoires soumis à une pression démographique qui devaient y répondre tout en ménageant leurs espaces, leur géographie, leurs espaces naturels, d'ores et déjà, on ne parlait pas encore de zéro artificialisation nette, mais il y avait déjà cette idée en 2008 de ménager les espaces. Et cette candidature écocité, elle a été fondée sur construire la ville autour du fleuve. Alors, certes, il y a la Loire, mais derrière ce fleuve de la Loire, il y a des marais, il y a des étiers, il y a des rivières, il y a des ruisseaux. Et donc, cette thématique de l'eau et du paysage, qui est une thématique fédératrice, parce que l'eau est omniprésente, parce que le paysage, vous l'avez dit, c'est 6 intercommunalités. Ces 6 intercommunalités, c'est à peu près 1800 km², donc le paysage, c'est ce qui fait le lien. Et donc, je le disais, projet pour le territoire ou pour les territoires, c'est l'idée aussi de l'autre contexte. Il y avait cette candidature à Écocité, et puis le souhait des présidents de l'époque, des maires de Nantes et de Saint-Nazaire, donc Jean-Marc Ayrault et Joël Batteux, de transformer ce qui était un outil juste pour faire la planification réglementaire stratégique, le schéma de cohérence territoriale, en outil d'action concrète en pôle métropolitain. Et ça, c'est juste arrivé en 2011-2012. Et donc, il fallait aussi faire naître de cette dynamique à la fois écocité, transformation du mode de cet outil commun qu'ils avaient fondé en 2003, et une dernière chose, une dynamique culturelle qu'ils avaient autour de l'estuaire de la Loire avec une biennale d'art contemporain, grandeur nature, si je puis dire, autour d'estuaire, que ces trois triptyques prennent pied dans le territoire et pour le territoire, avec comme fond l'idée de se dire, ben, trouvons 6 lieux extraits de cette relation particulière qu'entretiennent les hommes, la géographie et l'eau sur ce territoire, pour à la fois les révéler, créer des espaces publics, démontrer aussi leur fragilité et questionner leur avenir, parce que c'est aussi un élément important. Et c'est pour ça que, mis ensemble, ces 6 sites de naissance et ont pu mobiliser des grandes équipes de paysagistes pour commencer à y apporter des réponses, à la fois sur leur aménagement, mais aussi sur leur futur possible, compte tenu des transitions et des contextes de changement climatique, montée des eaux, épisodes pluvieux récurrents et plus violents. Je ne vais pas faire là tout le panégyrique des possibilités du dérèglement climatique. Mais c'était surtout parce que c'est l'ADN, cette idée de mise en projet commun autour de 6 intercommunalités et projet concret pour les habitants. Et il y avait le dernier élément de contexte, l'idée d'un passage de témoin, puisque à cette époque-là, fin 2012, ça a été lancé en 2013, Jean-Marc Ayrault et Joël Batteux avaient décidé tous les deux, pour des raisons diverses, de passer la main en tant que maire, et que ce projet permettait aussi d'être un projet clé en main fédérateur pour les nouveaux élus arrivant, qui leur ont succédé, en l'occurrence Johanna Roland et David Sama et leurs collègues des EPCI qui l'ont confirmé. Voilà ce que je pourrais dire.
C'est très intéressant. Merci, merci à tous les trois pour vos précisions. Et d'ailleurs, je trouve très juste de rappeler que ce travail des acteurs et des élus territoriaux sont finalement aussi faits pour les habitants des territoires et à destination de ces derniers. Et justement, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission sur la mise en œuvre, dialogue et gouvernance de ces projets de territoire en écoutant d'abord ce petit extrait.
Bonjour à toutes et à tous, je salue les maires, Francis Mègevent, Renzo Sully, Éric Piolle, je salue les vice-présidentes et vice-présidents de la métropole. C'est un moment important aujourd'hui. Il est fort possible que ce temps de travail collectif soit un des éléments fondateurs, finalement, d'une dynamique collective. On est au cœur de l'agglomération, on est ici sans doute sur la zone de grande potentialité d'avenir.
La question qui nous est posée, c'est quel est le niveau d'ambition. On a fait la démonstration qu'on est capable de transcender des frontières communales pour, je dirais, développer un projet dans l'intérêt des habitants qui habitent ce territoire-là, mais dans l'intérêt métropolitain. Donc il nous faut envisager un projet qui ait une ambition qui soit forte. Il faut le prendre globalement, ce projet-là, pour les habitants de ce territoire, pour ceux qui doivent y venir demain, pour le développement économique de la métropole, pour son projet.
Donc on vient d'entendre à la fois la voix de Christophe Ferrari, président de la métropole de Grenoble, et puis Enzo Sully, maire d'Échirolles, qui expriment tous deux leurs ambitions en tant qu'élus pour le projet de territoire partagé sur la centralité sud de la métropole grenobloise. C'était à l'occasion d'un séminaire d'élus métropolitains qui avait été organisé justement afin de travailler ensemble sur une feuille de route, une stratégie commune pour ce territoire central qui s'avère quand même délaissé au milieu de l'agglomération. On l'a entendu, ce besoin de raccrocher quand même les projets au territoire, donc au territoire, aux habitants. Laurent, comment s'organise la gouvernance, le dialogue d'ailleurs avec les différents acteurs du territoire et d'une façon plus générale la mise en œuvre des projets de territoire ?
Alors, nos invités en parleront, mais c'est vrai que dans chacune de ces démarches, le dialogue avec les différentes parties prenantes, notamment les élus, est particulièrement important. Et ça se traduit par des modes d'échange, de travail particuliers. Alors, Isabelle Diaz, vous avez commencé à en parler tout à l'heure sur les différents créneaux d'échange dans le cadre des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce mode de gouvernance des ateliers des territoires et d'échange avec les différents acteurs ?
Oui, bien sûr. Donc, les acteurs des ateliers sont à géométrie variable. Là, bien sûr, on n'a pas une liste d'acteurs a priori. Mmh. Et donc, c'est un collectif qui candidate d'abord. Donc, on va dire un noyau motivé au sein duquel nous avons au moins deux acteurs incontournables. Donc ce sont les services de l'État locaux, en fait, qui accompagnent la candidature et qui sont là pour être facilitateurs de la mise en place de l'atelier sur les territoires. Les élus, alors ce sont plutôt plusieurs élus qu'un seul, et on a parlé de limites administratives. L'atelier dépasse très souvent la limite administrative, on est sur des sujets qui demandent de travailler à différentes échelles. Donc on a plusieurs élus et on a un certain nombre, en fait, de porteurs de projets identifiés tout au long de la démarche, en fait. On va aller rencontrer sur le site, ça peut être un lycée du coin, une association, un socioprofessionnel, etc., etc., la CCI, le CAUE, donc également l'ingénierie locale, en fait, qui est autour de la table et qui... En fait, le tour de table s'enrichit au fur et à mesure qu'avance, en tout cas, la réflexion collective. Alors, ce qui est important, c'est que les élus viennent. Donc, on l'a un peu dit tout à l'heure. Et chacun est affranchi un petit peu de son positionnement habituel dans le territoire. Et en fait, chacun est expert. C'est ça qui est important. Et l'équipe projet qui anime la session, qui fait parler les gens, qui anime le débat, en fait, met l'accent sur cette question-là de l'expertise de chacun. et chacun étant habitant du territoire d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas pratiquant de ce territoire. Et la question, c'est de voir, non pas d'effacer les débats, ni les controverses, ni les intérêts et les logiques d'acteurs. Il ne s'agit pas d'aller contre ces logiques qui vont exister et qui font vivre le territoire. C'est plutôt de dire, est-ce qu'on est capable de trouver un socle commun de dialogue et sur lequel, en fait, on peut s'imaginer un récit d'avenir pour le territoire et pour lequel chacun pourra contribuer, en fait, de sa place qu'il va retrouver une fois qu'on sort de l'atelier. Donc, c'est ça un petit peu le positionnement. Sur les habitants, l'atelier des territoires, depuis quelques années, est amené à introduire, en fait, cette notion de participation habitante plus que ne l'a fait dans les années précédentes. Et donc, des formes de participation habitante s'organisent au sein des ateliers de manière assez libre et très différenciée également. Ça, c'est une contribution nouvelle, en tout cas, pour les années récentes.
Ouais, c'est chouette de voir ça. Oui.
Et vous, Stéphane Bois, alors comment s'est passée la gouvernance de cette démarche eau et paysage ?
Alors, comme vient de le dire Isabelle Diaz, je pense que l'important, le pôle métropolitain est un outil, un établissement public au service de ces six intercommunalités. Et le temps, le premier élément, ça a été, je reprends les mots d'Isabelle Diaz, de créer ce socle commun et ce récit d'avenir avec l'analyse de ce qu'est constitué ces paysages, ce rapport à l'eau, par les quatre équipes amenées à concourir. Donc, à l'échelle de du grand territoire, de ces 90 km qui séparent Nantes de l'océan, hein, c'est à peu près ça, ce socle commun, et après d'organiser six coproductions précises sur six lieux précises répondant à des questions à la fois d'envie et de projet politique, mais aussi d'attention aux usagers présents sur le site. Je pense par exemple sur divers projets aux agriculteurs, aux chasseurs, aux riverains, bien entendu. Mais organiser six coproductions, ça veut dire on est dans le dialogue assez classique des élus et des maîtres d'œuvre qui conçoivent et proposent le projet d'aménagement d'espace public, puisque là on parle bien de six aménagements d'espace public qui permettent de découvrir le territoire. Mais c'est aussi parce qu'on l'avait imaginé comme ça, on ne souhaitait pas que ce soit le pôle qui intervienne en lieu et place des territoires concernés. Donc on a organisé une véritable coproduction de cet outil supraterritorial qui est le pôle métropolitain, les communautés de communes et les communes concernées. Et ça, ce mode de travail particulier, c'est surtout retrouvé, on n'a pas voulu faire de financement croisé, en fait, on a tous mis, si je prenais une image, tout le monde a mis la main à la pâte. Et donc, du coup, ça a été pour nous un très très fort travail d'ingénierie administrative et financière pour pouvoir permettre cette co-réalisation et non pas se retrouver comme d'habitude dans des logiques de financement croisé ou de subvention. Ça n'a pas été du tout le cas. Chacun, dans ses compétences, a pris sa part pour réaliser un objet très concret. Et ça demande beaucoup de conviction, beaucoup de ténacité. Et puis, le dernier élément, sans récit d'avenir commun et ce socle commun, d'organiser ces coproductions, on pourrait arriver à perdre le fil du commun. Et ça a été aussi ça, cet échange de travail, enfin cet échange particulier, on en parlera peut-être par la suite sur la question du temps. Mais voilà, ça permet de garder le cap dans le temps, le travail collectif, de faire dialoguer chacune des six productions les unes avec les autres et de pouvoir conserver une identité commune. Donc voilà, c'est des modes, c'est pas des modes de cuisine interne, hein, mais c'est vraiment l'idée de se dire comment agit-on ensemble et comment nous sommes co-responsables du territoire, Donc nous sommes co-responsables de ces aménagements.
Pour co-construire, oui.
Merci Stéphane Bois. Paul-Émile Lezéan, alors vous êtes au tout début de votre démarche projet de territoire et CRTE. Alors quel format avez-vous retenu pour élaborer ces deux documents?
Alors là, on est parti donc sur la base de la désignation d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc avec le cabinet Alphaville qui est constitué en groupement pour nous accompagner dans cette démarche un peu singulière, donc avec un calendrier qui est assez restreint, puisque l'idée est de réussir à développer ce projet de territoire CRTE sur un petit peu moins de 12 mois. Donc un temps très resserré, mais j'ai envie de dire que c'est finalement une première étape dans l'inscription d'une gouvernance de plus long terme, gouvernance qui doit donc effectivement se raccrocher au territoire, au terrain. Et donc il y a en fait trois grandes étapes hein, qui sont à somme toute assez classiques, mais intéressantes et importantes dans le cheminement local. Donc avec une étape de diagnostic, la formalisation, une première étape de diagnostic, un deuxième temps plus d'immersion et de rencontre des acteurs de terrain, de rencontre auprès des élus des 57 communes, auprès des citoyens aussi, alors d'une manière aussi assez classique, mais je vais y revenir un petit peu après, mais qui trouve son sens aussi localement. Et puis un troisième temps, donc de un peu conclusif avec ce programme d'action qui découlera de tout ce temps de travail. Je pense que voilà, un des enseignements forts à tirer de tout ça en termes d'outils et de management de projet, c'est déjà dans un premier temps, en tout cas pour un milieu rural comme le nôtre, c'est de se dire on a le droit de se projeter. Moi, c'est une réflexion que je me suis faite en arrivant sur le territoire, c'est que beaucoup d'élus considéraient que de toute manière, voilà, ils étaient un petit peu en marge, effectivement, d'un certain mouvement national et qu'ils n'avaient pas forcément le droit ou le devoir de se projeter, de se dire bah, demain, la Puisaye-Forterre peut être un territoire tout aussi attractif que d'autres, avec donc des potentialités. Donc, tout l'enjeu, déjà, dans ces premiers temps, de travail, c'est de révéler les usages, d'apprendre à connaître son territoire, d'apprendre à se connaître, de révéler aussi les acteurs qui sont très nombreux, qui sont très bien organisés, les acteurs de terrain. On a un tissu associatif qui est vraiment dans une forme de professionnalisation et d'accompagnement au quotidien. Donc il y a une mécanique qui s'est mise en place finalement par un peu par nécessité finalement, par l'absence de d'autres mécanismes. Donc il y a une certaine ingénierie locale qui s'est développée, qui ne travaille pas forcément directement en lien avec le politique. Donc c'est tout ce potentiel qu'on vient de révéler et de mettre un peu en musique au travers d'un plan d'action. Et j'aime bien effectivement aussi ce terme utilisé par Mme Diaz de socle commun, qui voilà, c'est d'aboutir vraiment à ce travail-là de partage d'une vision global du territoire, vision globale et partagée. Et donc, voilà, c'est travailler vraiment sur le terrain, sur une gouvernance élargie. C'est déjà des premières étapes qui sont essentielles à notre niveau dans le cadre de ce projet de territoire.
Et oui, de tisser du lien avec tous ces acteurs. Merci à tous les trois pour ce nouveau témoignage. Je vous propose de passer justement à l'application, à la concrétisation de ces actions sur un temps qui peut être plus ou moins long. Vous l'avez évoqué chacun dans vos témoignages. Parfois, il faut agir vite. Parfois, c'est des actions à court, moyen ou long terme. Donc, pour aborder cette troisième partie, je vous propose d'écouter d'abord ce petit extrait.
Je crois qu'un projet de territoire, c'est ce qui permet d'avoir une vision de l'avenir. Donc se projeter dans les 5-10 ans qui viennent devant nous par rapport à un territoire où il y a une forte croissance démographique, et puis ensuite voir les besoins de nos populations, d'où un projet de territoire, ça permet par rapport à nos budgets de s'orienter, de prévoir et de préparer l'avenir.
Donc on vient d'entendre Louis Villaret, qui est président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, sur le projet de territoire engagé en 2015, qui rappelle la nécessité de prévoir, anticiper les actions et les orientations du territoire sur un temps plus ou moins long. Laurent, comment prévoir ces actions de demain à un temps zéro? On sait quand même bien que demain sera toujours différent, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Alors comment anticiper ce qu'on ne connaît pas encore?
Alors c'est tout l'enjeu des premiers temps du projet de territoire, enfin d'ailleurs quelle que soit la manière de le mener, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Et c'est vrai que le premier temps, Paul-Émile en disait quelques mots avant, il s'agit de réussir à convaincre qu'on ne va pas faire que réfléchir. Et que se projeter, il y a toujours une incertitude, mais que si on ne le fait pas, on ne passera jamais à l'action. Et donc c'est vrai que c'est important de se dire que cette réflexion, eh bien, son objectif, c'est qu'à un moment, ça atterrisse, qu'il y ait, comme sur Nantes-Saint-Nazaire, des espaces publics qu'on pourra fouler. C'est-à-dire qu'à un moment, on agira. Et donc, c'est vrai que le sujet, c'est de voir, en tout cas, de crédibiliser le projet de territoire, de s'assurer qu'il aura la garantie de passer à l'action. Et donc, sur ce sujet-là, Stéphane Bois, comment avez-vous réussi, depuis 2013, à passer à l'action? Est-ce que ça s'est fait finalement facilement, ou est-ce qu'il a fallu franchir toute une série d'étapes pour enfin fouler ces espaces publics?
Pas mal d'étapes, en fait. Peut-être plus que...
On ne vous entend pas très bien. Peut-être on peut passer pour essayer de récupérer la connexion qui n'est pas très bonne. Peut-être on peut passer à un autre intervenant en attendant.
Oui. Paul-Émile Le Zéan, sur les actions. Alors, on sait qu'on ne part pas jamais de zéro. Comment vous introduisez ce passage à l'action auprès des élus dans le cadre de ce projet de territoire?
Alors ça, j'ai envie de dire, ça va être un peu la grande nouveauté. C'est-à-dire que on a été la plus effortaire depuis. Elle est issue d'une fusion de plusieurs comités de communes, de pays. Enfin bref, il y a eu tout un temps, une décennie de fusion coup sur coup. Et en fait, il y avait une logique de projet qui était déterminée en fait par les appels à projets qui sortaient et qui étaient portés par différents partenaires. Ce qui fait qu'en fait, il n'y avait pas on enchaînait les études, on les compilait. Ce qui faisait un tout des fois qui était un petit peu difficilement compréhensible et appréhendable. Et donc là, l'idée, justement, c'est d'arriver dans ce temps aussi relativement restreint à réunir tout le monde, arriver à ce projet commun et derrière ce projet commun, à sortir une feuille de route opérationnelle avec en face des jalons temporels et un coût, une économie de projet. Et ça, je pense que ça va être vraiment la grande nouveauté. Et aujourd'hui, ça reste encore de l'ordre de la théorie, parce qu'on n'est pas rentré encore vraiment dans le concret. On démarre tout juste le projet. Mais je pense qu'in fine, à l'issue de ces 12 mois, on aura vraiment une vision objective, ou la plus objective possible, de la suite que l'on souhaite donner à l'évolution du territoire. Donc, avec tout un programme opérationnel qui sera validé et contractualisé avec ça aussi, ça sera une nouveauté, avec les acteurs de terrain. Donc, les acteurs de terrain, les acteurs institutionnels, la gouvernance interne de la collectivité aussi, et puis donc les citoyens. Et ça, finalement, tout ça, c'est quand même une vraie, je pense, révolution au sein du territoire sur lequel je travaille, mais plus globalement, je pense, au niveau national, il y a ce côté, on sort du projet et derrière, quand je dis qu'on sort, on crée du projet et derrière, il y a un engagement économique et un engagement politique à réaliser ce programme-là. Personnellement, je trouve qu'il y a c'est plutôt engageant et positif pour la suite.
Merci Paul-Émile Le Zéan. Isabelle Diaz, avec le recul que vous avez sur les précédentes sessions, alors il y a quel passage à l'action des ateliers des territoires?
Alors ça, c'est une question difficile. D'abord, ce que je voudrais quand même pouvoir affirmer, en fait, c'est que je pense que tout ce type de démarche que l'on peut appeler processus Je voudrais pouvoir affirmer, je répète, que c'est déjà de l'action. C'est-à-dire, c'est pas qu'une forme, une méthodologie nouvelle. Et je pense, et les acteurs nous l'ont dit, quand ça se passe bien, c'est déjà de l'action. C'est-à-dire que la feuille de route ou les productions qu'on a vues apparaître pendant l'atelier, on est déjà dans l'action et pas seulement dans la réflexion. Alors, c'est une action, effectivement, qui n'est pas comparable à la production d'un espace public ou à sortir un projet bâti que l'on peut montrer avec les photos, etc. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, l'atelier des territoires, c'est vrai que ce qui est très important de le voir au début et tout au long et à la fin, c'est voir comment ils connectent avec ceux qui pourront agir, en fait. Parce qu'en fait, l'atelier est un accompagnement méthodologique pour une stratégie, un récit, etc. Donc, tout le souci, en fait, de l'équipe pluridisciplinaire qui est engagée avec le territoire, c'est se dire, est-ce qu'on peut trouver au moins une action sur laquelle on puisse, en fait, vous laisser, donc, parce que l'atelier a une fin, vous laisser donc, chez vous, et on termine notre collaboration, et comment on enclenche au moins l'une des actions de la feuille de route. Alors, ça a pu marcher à certains endroits, je pense en moyenne montagne, à des endroits où on a pu enclencher justement le projet économique pour faire évoluer une station de ski, où on a pu compléter une véloroute où on n'arrivait pas en fait à faire tous les morceaux parce qu'il y avait des problématiques de... justement de responsabilité, de tels morceaux de terrain, des choses assez simples, mais néanmoins pratiques. Et dans des territoires, donc, comme dans ce qu'on vient d'entendre, ruraux, en fait, qui, en fait, se voient le droit d'avoir justement des projets. Donc, difficile quand même pour l'atelier des territoires d'enclencher immédiatement l'action. Mais au moins, on est dans l'identification d'acteurs, en fait, qui peuvent porter
c'est
l'action.
Vrai. Et puis, c'est bien de rappeler quand même que le processus, en effet, est dès qu'on va décider de passer à un projet de territoire, c'est déjà une action en soi de cette décision. Donc, c'est bien de le rappeler. On va devoir conclure. Je suis bien désolée, puisque c'était une discussion très intéressante qu'on aurait bien aimé poursuivre tous ensemble. Laurent, un petit mot de conclusion ?
Je pense qu'on a entendu dans ces trois démarches finalement le même désir de faire projet collectivement et puis surtout cette vision qui part du territoire et donc cette mm-hmm. pensée avec les pieds, voilà,
oui.
Pour reprendre
Augustin
Berck qui était à l'antenne dernièrement, mais de sentir qu'il y a vraiment ce désir de partir d'en bas, de s'inscrire dans un socle malgré tout national, c'est-à-dire que les préoccupations, on les a entendues, les préoccupations sont les mêmes sur les différents territoires, mais il y a ce désir de faire sens commun localement et puis d'atterrir et de donner à voir des actions. Donc je trouve qu'on a pu entendre trois approches,
visions,
mais
trois
finalement
approches,
qui se rejoignent.
Qui se rejoignent bien. En tout cas, merci à tous beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle quand même ce rapport, parce que personnellement, je le trouve très bien, mené par l'Assemblée des communes de France et la Caisse des dépôts. Alors, il y a eu la version 2014-2015 et là, plus récemment, en 2020, ils ont fait une évaluation des projets de territoire. Donc, il y a tous les résultats de cette enquête qui me semble très intéressant, en tout cas de regarder de plus près pour ceux qui s'intéressent à ces projets de territoire. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute sur Radio Territoria et à bientôt, j'espère.
Territoire en projet, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.